Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Il fouilla les environs de la capitale et découvrit une bicoque à vendre en haut de Fontenay-aux-Roses, dans un endroit écarté, sans voisin, près du fort. Son rêve était exaucé. Dans ce pays peu ravagé par les Parisiens, il était certain d'être à l'abri. La difficulté des communications, mal assurée par un ridicule chemin de fer situé au bout de la ville et par de petits tramways partant et marchant à leur guise, le rassurait. En songeant à la nouvelle existence qu'il voulait organiser, il éprouvait une allégresse d'autant plus vive qu'il se voyait retiré assez loin déjà, sur la berge, pour que le flot de Paris ne l'atteignît plus, et assez près cependant pour que cette proximité de la capitale le confirmât dans sa solitude. Et en effet, puisqu'il suffit qu'on soit dans l'impossibilité de se rendre à un endroit pour qu'aussitôt le désir d'y aller vous prenne, il avait des chances, en ne se barrant pas complètement la route, de n'être assailli par aucun regain de société, par aucun regret. Il mit les maçons sur la maison qu'il avait acquise, puis brusquement, un jour, sans faire part à qui que ce fût de ses projets, il se débarrassa de son ancien mobilier, congédia ses domestiques et disparut, sans laisser au concierge aucune adresse. À toutes et à tous les nostalgiques du confinement, de ce temps figé d'enfermement préservé hors des remous malheureux de la société, prenez place dans la demeure du duc Jean de Floressas des Essintes, un grêle jeune homme de 30 ans, anémique et nerveux, aux joues caves, aux yeux d'un bleu froid d'acier, au nez éventé et pourtant droit, aux mains sèches et fluettes, à la barbe en pointe extraordinairement pâle, à l'expression ambiguë, tout à la fois lasse et habile, issu d'une lignée décadente d'athlétiques soudards des territoires d'Île-de-France et de Brie, qui, à force de marier leurs enfants entre eux, ne créent plus que des mâles efféminés. Anti-héros raffinés, dandys décadents, princes malades déconfinés, le reclus d'Arebourg, légendaire roman signé du français Joris Karl Huysmans, publié en 1984, perd ses parents à 17 ans. Son enfance a été funèbre. La famille qui lui reste se préoccupe peu de lui. Ses domestiques sont vieux. Il lit beaucoup et s'abreuve de solitude. Fréquentant brièvement les jeunes gens de son âge ou les dégoûtantes discussions d'hommes de lettres, Des Essintes laisse croître son mépris de l'humanité jusqu'à faire naître l'irrépressible besoin de se blottir loin du monde, de se calfeutrer dans une retraite, dans sa bicoque de Fontenay, enfilade de boudoirs roses ou de glaces qui se font écho, et qui sera le théâtre d'expériences artistiques, végétales ou médicales, hors du commun. Ce n'est pas un roman aimable, écrit Maëlys de Kerangal, près de 150 ans plus tard, dans la réédition de poche parue chez Flammarion. Dès les premières pages, à rebours dédaigne toute forme d'empathie. Immédiatement transgressif et vaguement effrayant, poursuit l'autrice de Réparer les vivants, c'est tout autant le roman d'un exil volontaire que l'édification d'un musée personnel, d'un cabinet de curiosité, tout autant un manifeste esthétique qu'un pamphlet misanthrope, tout autant le journal d'une solitude que le portrait d'un homme qui se sauve, tout autant une méditation sur la décadence et la mort, une plongée dans la dépression, une diffraction du spleen, que l'inventaire fiévreux de ce qui leur résiste, c'est-à-dire la beauté. Nous devrions donc étouffer dans ce livre, suffoquer sous les lourds parfums des fleurs dont le héros raffole, nous sentir asphyxiés d'amertume et de fiel. Alors qu'à rebours, et c'est toujours Kerangal qui écrit, demeure de bout en bout un roman nerveux, excité, fébrile. 5 extraits capitaux, capiteux de ce diamant noir vénéré par Gainsbourg, Oscar Wilde ou Houellebecq seront lus dans cette émission, à pas de tortue, mais dont la carapace sera couverte bien entendu de pierres précieuses, glacées d'or, de rubis ou dieux de chat de Ceylan. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouvez chaque dimanche de 12h à 13h pour sa 9e saison. Flânons dès maintenant, flânons dans les couloirs du Duc des Hyacinthes pour arriver très vite vers une merveilleuse invention, un orgue à bouche. Il s'enfuit dans la salle à manger où, pratiquée dans l'une des cloisons, une armoire contenait une série de petits tonneaux rangés côte à côte sur de minuscules chantiers de bois de santal percés de robinets d'argent au bas du ventre. Il appelait cette réunion de barils à liqueur son orgue à bouche. Une tige pouvait rejoindre tous les robinets, les asservir à un mouvement unique, de sorte qu'une fois l'appareil en place, il suffisait de toucher un bouton dissimulé dans la boiserie pour que toutes les cannelles tournées en même temps remplissent de liqueur les imperceptibles gobelets placés au-dessous d'elles. L'orgue se trouvait alors ouvert. Les tiroirs étiquetés, flûte, cor, voix céleste, étaient tirés, prêts à la manœuvre. Des Hyacinthes buvaient une goutte. Ici, là, se jouaient des symphonies intérieures, arrivaient à se procurer dans le gosier des sensations analogues à celles que la musique verse à l'oreille. Du reste, chaque liqueur correspondait selon lui, comme goût, au son d'un instrument. Le curaçao sec, par exemple, à la clarinette, dont le chant est aigrelet et velouté. La menthe et l'anisette à la flûte, tout à la fois sucrée et poivrée, piolante et douce. Tandis que pour compléter l'orchestre, le kirsch sonne furieusement de la trompette. Le gin et le whisky emportent le palais avec leurs stridents éclats de pistons et de trombones. L'eau de vie de mare fulmine avec les assourdissants vacarmes des tubas, pendant que roulent les coups de tonnerre de la cymbale et de la caisse, frappés à tour de bras dans la peau de la bouche par les raquis de Kyo et les mastiques. Il pensait aussi que l'assimilation pouvait s'étendre, que des quatuors d'instruments à cordes pouvaient fonctionner sous la voûte palatine, avec le violon représentant la vieille eau-de-vie, fumeuse et fine, aiguë et frêle, avec l'alto simulé par le rhum, plus robuste, plus ronflant, plus sourd, avec la contrebasse corsée, solide et noire, comme un pur et vieux bitter. Avec le vespetro déchirant et prolongé, mélancolique et caressant, comme un violoncelle. On pouvait même, si l'on voulait former un quintet, adjoindre un cinquième instrument, la harpe, qui imitait, par une vraisemblable analogie, la saveur vibrante, la note argentine, détachée et grêle du cumin sec. La similitude se prolongeait encore, des relations de ton existaient dans la musique des liqueurs. Ainsi, pour ne citer qu'une note, la bénédictine figure, pour ainsi dire, le ton mineur de ce ton majeur des alcools que les partitions commerciales désignent sous le signe de chartreuse verte. Ces principes, une fois admis, des Hyacinthes étaient parvenus, grâce à d'érudites expériences, à se jouer sur la langue de silencieuses mélodies, de muettes marches funèbres à grand spectacle, à entendre dans sa bouche des solis de menthe, des duos de vespetro et de rhum. Il arrivait même à transférer dans sa mâchoire de véritables morceaux de musique, suivant le compositeur, pas à pas, rendant sa pensée, ses effets, ses nuances, par des unions ou des contrastes voisins de liqueurs, par d'approximatifs et savants mélanges. D'autres fois, il composait lui-même des mélodies, exécutait des pastorales avec le bénin cassis, qui qui lui faisait rouler dans la gorge des chants emperlés de rossignols.
Je fais de ma vie un chef-d'œuvre que l'on visite pour 100 francs tous les 2 ou 3 ans. J'écrase des insectes merveilleux sur des visages adolescents et absolument consentants. Je marcherai nu sur le pont neuf le 7 avril de 2009 en criant mort la poésie, mort la poésie, je suis un homme d'heure en buvant des alcools blancs dans des endroits très déroutants. Jusqu'à Tunis le 7 avril de 2010 en criant mort la poésie, mort la poésie, je suis un
Nova Book Box, sous les couvertures, des personnages au poil.
Je fais de ma vie un chef-d'œuvre que l'on visite pour 100 francs. Tous les 2 ou 3 ans, j'écrase des insectes merveilleux sur des visages adolescents absolument consentants. Parole typiquement décadente, signée du dandy dadi dada Philippe Catherine en 2002, clamant « Mort à la poésie !» sur sa chanson du même titre tirée de l'album « Huitième ciel ». J'adorerais voir et entendre Philippe Catherine se servir de l'orgue à bouche du baril à liqueur musicale imaginé par l'écrivain français Joris Karl Huysmans dans son roman « À rebours », salué à l'époque par Zola ou Mallarmé. En voici un deuxième extrait, écrit pour nuire à la société, pour pervertir la jeunesse. Il s'appelait Auguste Langlois, travaillait chez un cartonnier, avait perdu sa mère et possédait un père qui le battait comme plâtre. Des Esseintes l'écouta, pensif. « Viens boire, » dit-il. Et il l'emmena dans un café où il lui fit servir de violents punchs. L'enfant buvait sans dire mot. « Voyons, » fit tout à coup Des Esseintes. « Veux-tu t'amuser ce soir ?»« C'est moi qui paye. » Et il avait emmené le petit chez Madame Laure, une dame qui tenait rue Monnier, au 3e, un assortiment de fleuristes dans une série de pièces rouges, ornées de glaces rondes, meublées de canapés et de cuvettes. Là, très ébahi, Auguste avait regardé, en pétrissant le drap de sa casquette, un bataillon de femmes dont les bouches peintes s'ouvrirent toutes ensemble.
« Ah, le môme, tiens, il est gentil !»«
Mais dis donc, mon petit, tu n'as pas l'âge ?» avait ajouté une grande brune, aux yeux à fleur de tête, au nez busqué, qui remplissait chez Madame Laure l'indispensable rôle de la belle juive. Installé presque chez lui, Des Esseintes causait avec la patronne à voix basse. « N'aie donc pas peur, bêta !» reprit-il, s'adressant à l'enfant. « Allons, fais ton choix, je régale. » Et il poussa doucement le gamin qui tomba sur un divan, entre deux femmes. Elles se serrèrent un peu sur un signe de madame, enveloppant les genoux d'Auguste avec leur peignoir, lui mettant sous le nez leurs épaules poudrées d'un givre entêtant et tiède. Il ne bougea plus, le sang aux joues, la bouche rêche, les yeux baissés, hasardant en dessous des regards curieux qui s'attachaient obstinément au haut des jambes. Vanda, la belle juive, lui donna de bons conseils, lui recommandant d'obéir à son père et à sa mère, et ses mains erraient en même temps avec lenteur sur l'enfant, dont la figure changeait se pâmait sur son cou à la renverse.
Alors, ce n'est pas pour ton compte que tu viens ce soir ?
Dit à Des Esseintes Madame Laure.
Mais où diable as-tu levé ce bambin ?
Reprit-elle quand Auguste eut disparu, emmené par Vanda.
Dans la rue, ma chère.
Tu n'es pourtant pas gris,
murmura la vieille dame. Puis, après réflexion, elle ajouta avec un sourire maternel.
Je comprends. Matin, il te les faut jeunes à toi.
Des Esseintes haussa les épaules.
Tu n'y es pas, oh, mais pas du tout,
fit-il.
La vérité, c'est que je tâche simplement de préparer un assassin. Suis bien.
En effet, mon raisonnement.
Ce garçon est vierge et a atteint l'âge où le sang bouillonne. Il pourrait courir après les fillettes de son quartier, demeurer honnête tout en s'amusant, avoir en somme sa petite part du monotone bonheur réservé aux pauvres. Au contraire, en l'amenant ici, au milieu d'un luxe qu'il ne soupçonnait même pas et qui se gravera forcément dans sa mémoire, en lui offrant tous les 15 jours une telle aubaine, il prendra l'habitude de ses jouissances que ses moyens lui interdisent. Admettons qu'il faille 3 mois pour qu'elles lui soient devenues absolument nécessaires. Et en les espaçant comme je le fais, je ne risque pas de le rassasier. Eh bien, au bout de ces 3 mois, je supprime la petite rente que je vais te verser d'avance pour cette bonne action. Et alors, il volera. Afin de séjourner ici, il fera les 119 coups pour se rouler sur ce divan et sous ce gaz. en poussant les choses à l'extrême. Il tuera, je l'espère, le monsieur qui apparaîtra mal à propos tandis qu'il tentera de forcer son secrétaire. Alors, mon but sera atteint. J'aurai contribué, dans la mesure de mes ressources, à créer ce gredin, un ennemi de plus, pour cette hideuse société qui nous rançonne. Les femmes ouvrirent de grands yeux.
« Te voilà !»
reprit-il, voyant Auguste qui rentrait dans le salon et se dérobait, rouge et penaud, derrière la belle juive. « Allons, gamin, il se fait tard, salue ces dames !» Et il lui expliqua dans l'escalier qu'il pourrait, chaque quinzaine, se rendre sans bourse déliée chez Madame Laure. Puis une fois dans la rue, sur le trottoir, regardant l'enfant abasourdi, « Nous ne nous verrons plus. Retourne au plus vite chez ton père, dont la main est inactive et le démange. Et rappelle-toi cette parole quasi-évangélique. Fais aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Avec cette maxime, tu iras loin. Bonsoir. Surtout, ne sois pas ingrat. Donne-moi le plus tôt possible de tes nouvelles par la voix des gazettes judiciaires. »
In white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth. I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. I've written, never
Nova Book Box. Longtemps je me suis couchée de bonne humeur.
Les Nuits de Satin Blanc, chanson des Britanniques du groupe Moody Blues, sortie le jour de mon anniversaire, un 10 novembre, mais en 1967, et qui servit de bande-son magnifique aux langueurs d'un bordel fin de siècle dans le film L'Apollonide, souvenir de la maison close, écrit et réalisé en 2011 par Bertrand Bonello avec Adèle Haenel ou Avzia Herzi. Pour obtenir l'égalité, point final, entre les hommes et les femmes. Et si les Françaises se mettaient en grève, une grève nationale totale du travail, du sexe, du couple, de la famille. Et si cette grève avait lieu demain, le 15 juin, sur le modèle de la grève féminine survenue en Suisse le 14 juin 2019, qui rassembla une femme sur neuf. Pour protester contre l'écart salarial, les violences, la non-équité du temps dévoué aux tâches domestiques, bloquer les entreprises et les institutions, la grève de tous nos outils de production, les femmes bras croisés, le pays perd-pied. Cette idée réjouissante fut formulée début février au Centre Pompidou sous la forme d'une fiction prospective signée et déclamée par Chloé Delhomme. Comme la prolongation naturelle de son essai, mais bien chère sœur, manifeste pour une sororité de combat. Elle était venue nous parler de ça début mars dans cette émission, et au cours de la conversation, je lui avais demandé qui étaient ses héros masculins de fiction favoris. Il n'y en avait guère, mais après réflexion, voici ce que Chloé Delhomme m'avait répondu. Quel est votre personnage masculin de fiction favori? Celui où vous vous dites, tiens, celui-là, c'est un allié aussi.
Mon préféré ami, à part Colin dans L'écume des jours, parce que ça, c'est trop fastoche.
De Boris Vian.
Ça serait le personnage de Des Esseintes dans À rebours, en fait, qui est un neurasthénique collectionneur qui va très mal. Mais
pourquoi lui d'ailleurs?
J'ai un souvenir ému de ses ressentis pour le coup. Je me sentais concernée alors que je suis pas du tout neurasthénique et pas du tout collectionneuse. Mais c'est un esthète à rebours. C'est toute l'histoire d'un esthète et qui est hyper sensible. Et je crois que ça m'avait bien marqué.
Merci Chloé Delhomme. Elle publiera à la rentrée son nouveau roman, Le cœur synthétique, aux éditions du Seuil. Le cœur synthétique, voici un si beau titre et une image qui aurait pu plaire à Huysmans, héros de l'émission du jour. Voici un troisième extrait de son roman À rebours, dans lequel Des Esseintes a terriblement mal aux dents. Car s'il y a bien quelque chose qui force les collectionneurs neurasthéniques misanthropes à sortir de chez eux, c'est bien des quenottes douloureuses. Et sa seule sortie de la semaine ne va pas le décevoir. Quant à l'écriture, on dirait du Céline avant l'heure. Il y avait de cela 3 années. Il fut pris au milieu d'une nuit d'une abominable rage de dents. Il se tamponnait la joue, butait contre les meubles, arpentait, semblable à un fou, sa chambre. C'était une molaire déjà plombée. Aucune guérison n'était possible. Tout en se tenant la mâchoire, il se demandait comment faire. Les dentistes qui le soignaient étaient de riches négociants qu'on ne voyait point à sa guise. Il fallait convenir avec eux de visites, d'heures, de rendez-vous. « C'était inacceptable, je ne pus différer plus longtemps !» disait-il. Il se décida à aller chez le premier venu, à courir chez un quenotier du peuple, un de ces gens à poigne de fer qui, s'ils ignorent l'art, bien inutile d'ailleurs, de poncer les caries et d'obturer les trous, savent extirper avec une rapidité sans pareille les chicots les plus tenaces. Chez ceux-là, c'est ouvert au petit jour et l'on n'attend pas. 7 heures sonnèrent enfin. Il se précipita hors de chez lui et, se rappelant le nom connu d'un mécanicien qui s'intitulait dentiste populaire et logeait au coin d'un quai, il s'élança dans les rues en mordant son mouchoir, en renfonçant ses larmes. Arrivé devant la maison reconnaissable à un immense écriteau de bois noir où le nom de Gatonax s'étalait en d'énormes lettres couleur de potiron, et en 2 petites armoires vitrées où des dents de pâte étaient soigneusement alignées dans des gencives de cire rose, reliées entre elles par des ressorts mécaniques de laiton, il haleta, la sueur aux tempes. Une transe horrible lui vint. Un frisson lui glissa sur la peau, un apaisement eut lieu, la souffrance s'arrêta, la dent se tut. Il resta, stupide, sur le trottoir.
Il s'était enfin roidi contre l'angoisse, avait escaladé un escalier obscur, grappé 4 à 4 jusqu'au troisième étage. Là, il s'était trouvé devant une porte où une plaque d'émail répétait, inscrit avec des lettres d'un bleu céleste, le nom de l'enseigne. Il avait tiré la sonnette, puis épouvanté par les larges crachats rouges qu'il apercevait collés sur les marches, il fit volte-face, résolu à souffrir des dents toute sa vie, quand un cri déchirant perça les cloisons, emplit la cage de l'escalier, le cloua d'horreur sur place, en même temps qu'une porte s'ouvrit et qu'une vieille femme le pria d'entrer. La honte l'avait emporté sur la peur. Il avait été introduit dans une salle à manger, une autre porte avait claqué, donnant passage à un terrible grenadier, vêtu d'une redingote et d'un pantalon noir, des essaintes le suivit dans une autre pièce. Ses sensations devenaient dès ce moment confuses. Vaguement, il se souvenait de s'être affacé en face d'une fenêtre, dans un fauteuil, d'avoir balbutié en mettant un doigt sur sa dent. Elle a déjà été plombée. J'ai peur qu'il n'ait rien à faire. L'homme avait immédiatement supprimé ses explications en lui enfonçant un index énorme dans la bouche. Puis tout en grommelant sous ses moustaches vernies en croc, il avait pris un instrument sur une table. Alors, la grande scène avait commencé. Cramponné au bras du fauteuil, des essaintes avaient senti dans la joue du froid, puis ses yeux avaient vu 36 chandelles, et il s'était mis, souffrant des douleurs inouïes, à battre des pieds et à bêler ainsi qu'une bête qu'on assassine. Un craquement s'était fait entendre. La molaire se cassait en venant. Il lui avait alors semblé qu'on lui arrachait la tête, qu'on lui fracassait le crâne. Il avait perdu la raison, avait hurlé de toutes ses forces, s'était furieusement défendu contre l'homme qui se ruait de nouveau sur lui, comme s'il voulait lui entrer son bras jusqu'au fond du ventre, s'était brusquement reculé d'un pas et, levant le corps attaché à la mâchoire, l'avait laissé brutalement retomber sur le derrière, dans le fauteuil, tandis que debout, emplissant la fenêtre, il soufflait, brandissant au bout de son davier une dent bleue où pendait du rouge. Anéanti, des essaintes avaient dégobillé du sang, plein une cuvette, refusé d'un geste à la vieille femme qui rentrait l'offrande de son chicot qu'elle s'apprêtait à envelopper dans un journal, et il avait fui, payant 2 francs, lançant à son tour des crachats sanglants sur les marches, et il s'était retrouvé dans la rue, joyeux, rajeuni de 10 ans, s'intéressant aux moindres choses.
She'll come. She'll lay a leaf on you. Skin sweet with musky oil. The lady from another green.
oui, en 1973, et sa dame à l'âme grimaçante, Lady Grinning Soul. Clôture d'un album, Aladdin Sane, consacré au thème de la décadence. Sur cette chanson, il évoque une femme raffinée, altière, via un vocabulaire qui évoque l'Europe des années 30. Inspiré par sa rencontre avec la chanteuse de soul américaine Claudia Lehner, qui avait déjà donné envie à Mick Jagger d'écrire Brown Sugar pour les Stones, on imagine que la meuf devait envoyer niveau charisme. Voici d'ailleurs deux portraits de femmes exceptionnelles, toujours tirés du roman À rebours de Huysmans. Son anti-héros, Daisy Sainte, mec chelou, confiné dans sa demeure de Fontenay aux Roses, seul et fier de l'être, laisse son esprit vagabonder et se souvient soudain de deux de ses maîtresses, la colossale Miss Urania, héroïne crumbienne avec un siècle d'avance, et la ventriloque. Des dents longues et blanches, une peau satinée toute rose, un nez taillé en biseau, des yeux de souris, des cheveux coupés à la chien et blonds. C'était Miss Urania. Une américaine au corps bien découplé, aux jambes nerveuses, aux muscles d'acier, aux bras de fonte. Elle avait été l'une des acrobates les plus renommées du cirque. Des essaintes l'avaient, durant de longues soirées, attentivement suivie. Les premières fois, elle lui était apparue telle qu'elle était, c'est-à-dire solide et belle. Mais le désir de l'approcher ne l'étreignit point. Elle n'avait rien qui la recommandât à la convoitise d'un blasé. Et cependant, il retourna au cirque à lécher par. Il ne savait quoi, poussé par un sentiment difficile à définir. Peu à peu, en même temps qu'il l'observait, de singulières conceptions naquirent. À mesure qu'il admirait sa souplesse et sa force, il voyait un artificiel changement de sexe se produire en elle. Ses singeries gracieuses, ces mièvreries de femelles s'effaçaient de plus en plus, tandis que se développaient à leur place les charmes agiles et puissants d'un mâle. En un mot, après avoir tout d'abord été femme, puis après avoir hésité, après avoir avoisiné l'androgyne, elle semblait se résoudre, se préciser, devenir complètement un homme. Alors, de même qu'un robuste gaillard s'éprend d'une fille grêle, cette clownesse doit aimer par tendance une créature faible, ployée, pareil à moi, sans souffle, se dit des essaintes. À se regarder, à laisser agir l'esprit de comparaison, il en vint à éprouver de son côté l'impression que lui-même se féminisait. Et il envia décidément la possession de cette femme, aspirant ainsi qu'une fillette anémique, chlorotique, après le grossier Hercule, dont les bras la peuvent broyer dans une étreinte. Cet échange de sexe entre Miss Urania et lui l'avait exalté. « Nous sommes voués l'un à l'autre », assurait-il. À cette subite admiration de la force brutale, jusqu'alors exécrée, se joignit enfin l'exorbitant attrait de la boue. Mais elle avait une retenue puritaine, au lit, et aucune de ces brutalités d'athlète qu'il souhaitait tout en les craignant. Des essaintes songea à ses autres maîtresses. Elles se pressaient en troupeau dans sa cervelle, mais par-dessus toutes s'exauçait maintenant la femme dont la monstruosité l'avait tant satisfait pendant des mois. Celle-là était une petite et sèche brune aux yeux noirs, aux cheveux pommadés, plaqués sur la tête, comme avec un pinceau séparé par une raie de garçon près d'une tempe. Il l'avait connue dans un café-concert où elle donnait des représentations de ventriloques. À la stupeur d'une foule que ses exercices mettaient mal à l'aise, elle faisait parler à tour de rôle des enfants en carton, rangés en flûte de pan sur des chaises. Elle conversait avec des mannequins presque vivants et dans la salle même, des mouches bourdonnaient autour des lustres et on entendait bruire le silencieux public qui s'étonnait d'être assis.
Des Esseintes avait été fasciné. Une masse d'idées germa en lui. Tout d'abord, il s'empressa de réduire, à coups de billets de banque, la ventriloque qui lui plut par le contraste même qu'elle opposait avec l'américaine. Cette brunette suintait des parfums préparés, malsains et capiteux. Et elle brûlait comme un cratère. En dépit de tous ces subterfuges, Des Esseintes s'épuisa en quelques heures. Il n'en persista pas moins à se laisser complaisamment gruger par elle, car plus que la maîtresse, le phénomène l'attirait. Il fit apporter un soir un petit sphinx en marbre noir, couché dans la pose classique, les pattes allongées, la tête rigide et droite, et une chimère en terre, polychrome, brandissant une crinière hérissée, dardant des yeux féroces, éventant avec les sillons de sa queue ses flancs gonflés, ainsi que des soufflets de forge. Il plaça chacune de ses bêtes à un bout de la chambre, éteignit les lampes, laissant les braises rougeoyer dans l'âtre, et éclairait vaguement la pièce en agrandissant les objets presque noyés dans l'ombre. Puis il s'étendit sur un canapé, près de la femme, avec des intonations étranges qu'il lui avait fait longuement et patiemment répéter à l'avance, elle anima, sans même remuer les lèvres, sans même les regarder, les deux monstres. Dans le silence de la nuit, l'admirable dialogue de la chimère et du sphinx commença, récité par des voix gutturales et profondes, rauques, puis aiguës, comme surhumaines. Bercé par l'admirable prose de Flaubert, il écoutait, pantelant, le terrible duo, des frissons le parcoururent de la nuque aux pieds. Quand la chimère proféra la solennelle et magique phrase « Je cherche des parfums nouveaux, des fleurs plus larges, des plaisirs inéprouvés. » C'était à lui qu'elle racontait sa fièvre d'inconnu, son idéal inassouvi, son besoin d'échapper à l'horrible réalité de l'existence, à franchir les confins de la pensée, à tâtonner sans jamais arriver à une certitude dans les brumes des au-delà de là. Doucement, il étreignait la femme silencieuse à ses côtés, se réfugiant ainsi qu'un enfant inconsolé près d'elle. Ne voyant même pas l'hermosa de la comédienne obligée de jouer une scène, obligé d'exercer son métier, loin de la rampe. Ces séances furent de durée brève. Malgré les prix exagérés qu'il lui paya, la ventriloque le congédia et le soir même s'offrit à un gaillard dont les exigences étaient moins compliquées et les reins plus sûrs.
Je sens
La vie en rose, Edith Piaf, reprise par l'actrice, mannequin et chanteuse Grace Jones en 1977, hit international tiré de son premier album Portfolio, sorti sur le label Islands. Dans la serre au lourd parfum de sa propriété de Fontenay-aux-Roses, le dandy des Essaintes s'éteint. Un mal le ronge et toute nourriture lui est impossible à avaler. Un médecin vient pour stopper le décharnement du duc et lui suggère de se nourrir par le trou-duc, par les fesses, ce qui ravive et ravit le squelette humain, tout en lui donnant des idées tout à fait appétissantes. Peut-on composer des menus entiers avec une poire à lavement ? Un matin, il demanda au domestique de lui présenter une glace. Elle lui glissa aussitôt des mains. Il se reconnaissait à peine. La figure était couleur de terre, les lèvres boursouflées et sèches, la langue ridée, la peau rugueuse. Ses cheveux et sa barbe, que le domestique n'avait plus taillés depuis la maladie, ajoutaient encore à l'horreur de la face creuse, des yeux agrandis et liquoreux qui brûlaient d'un éclat fébrile dans cette tête de squelette hérissée de poils. Plus que sa faiblesse, que ses vomissements incoercibles qui rejetaient tout essai de nourriture, plus que ce marasme où il plongeait, ce changement de visage l'effraya. Il se crut perdu, puis, dans l'accablement qui l'écrasa, une énergie d'homme acculé le mit sur son séant, lui donna la force d'écrire une lettre à son médecin de Paris et de commander au domestique de partir à l'instant à sa recherche et de le ramener coûte que coûte le jour même. Le médecin entra. Le domestique l'avait sans doute mis au courant de l'existence menée par des Essaintes et des divers symptômes qu'il avait pu lui-même observer depuis le jour où il avait ramassé son maître assommé par la violence des parfums près de la fenêtre. Le médecin écrivit une ordonnance et sans dire mot, partit. Le domestique apporta un lavement, c'est-à-dire un clistère qui s'utilise par voie anale. Un lavement nourrissant à la peptone, concentré obtenu à partir de viande, et prévint son maître qu'il répéterait cet exercice 3 fois dans les 24 heures. L'opération réussit et des Essaintes ne put s'empêcher de s'adresser de tacites félicitations à propos de cet événement qui couronnait en quelque sorte l'existence qu'il s'était créée. Son penchant vers l'artificiel avait maintenant, et sans même qu'il l'eût voulu, atteint l'exaucement suprême. On n'irait pas plus loin. La nourriture ainsi absorbée était à coup sûr la dernière déviation qu'on pût commettre. Ce serait délicieux, se disait-il, si on pouvait, une fois en pleine santé, continuer ce simple régime. Quelle économie de temps, quelle radicale délivrance de l'aversion qu'inspire aux gens sans appétit la viande. Quel définitif débarras de la lassitude qui découle toujours du choix forcément restreint des mets. Quelle énergique protestation contre le bas péché de la gourmandise. Enfin, quelle décisive insulte jetée à la face de cette vieille nature dont les uniformes exigences seraient pour jamais éteintes. À l'heure de se mettre à table, en se disant « j'ai l'estomac dans les talons », on dresserait le couvert en déposant le magistral instrument sur la nappe, et alors, le temps de réciter la bénédicité, on aurait supprimé l'ennuyeuse et vulgaire corvée du repas. Des Essaintes se lança dans des recettes inédites, préparant des dîners maigres. Des semaines s'écoulèrent et l'estomac se décida à fonctionner. Peu à peu, les organes se restaurèrent. Enfin, le moment échut où il put demeurer levé pendant des après-midi entières et se promener sans aide parmi ses pièces. Décidément, je m'achemine vers la santé. Le médecin lui déclara qu'il était allé au plus pressé en rétablissant les fonctions digestives et qu'il fallait maintenant attaquer la névrose qui n'était nullement guérie et nécessiterait des années de régime et de soins. Il ajouta enfin qu'avant de tenter tout remède, il fallait quitter cette solitude, revenir à Paris, rentrer dans la vie commune, tâcher enfin de se distraire comme les autres. « Mais ça ne me distrait pas, moi, les plaisirs des autres !»
s'écria des Hyacinthes, indigné. Sans discuter cette opinion, le médecin assura simplement que ce changement radical d'existence qu'il exigeait était à ses yeux une question de vie ou de mort, une question de santé ou de folie compliquée à brève échéance. Des Hyacinthes s'enferma dans sa chambre à coucher, se bouchant les oreilles aux coups de marteau qui clouaient les caisses d'emballage apprêtées par les domestiques. Chaque coup lui frappait le cœur.
Atlas sans ses Mountains, en duo avec Fishback dans cette adaptation de L'Ennemi, bouture des fleurs du mal, parmi tout un bouquet, un album complet d'adaptations musicales des poésies vénéneuses de Charles Baudelaire. C'était en 2018 et le disque donna lieu à quelques réussites comme ce morceau ou Promesse d'un visage. C'est sur cette chanson que se referme cette Nova Book Box spéciale à rebours, 3 semaines avant la fin de la saison et la fin de l'émission. Le compte à rebours est enclenché. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Mathieu Boudon. Programmation musicale, Michael Lio. Merci à eux. La semaine prochaine, j'ai invité 4 personnes. Mais comme ils ne m'ont pas encore tout à fait confirmé leur présence, je ne vais pas vous donner leur nom. Je n'ai que la promesse de leur visage. Comme l'a écrit Jodorowsky, d'une peau de tigre accrochée au mur, nous ferons des tigres. Bon dimanche et à la semaine prochaine.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.